commence. Alors, je vais essayer de vous expliquer le travail que je fais sur les perturbateurs endocriniens, donc ces molécules qui sont rejetées dans l'environnement et qu'on accuse de tous les maux. Et je vais essayer de vous faire comprendre que la position des scientifiques n'est pas toujours celle des médias. C'est-à-dire que dans les médias, on voit des scientifiques parler des perturbateurs endocriniens en parlant de disparition de la race humaine, d'empoisonnement. Et il y a quand même une grande majorité de scientifiques qui se posent des questions, qui essayent de comprendre si vraiment il y a un effet. Et disons qu'au bénéfice du doute, quand même, d'essayer de trouver des molécules qui pourraient remplacer les perturbateurs endocriniens supposés. Parce qu'il n'y a vraiment pas une preuve évidente chez l'homme. Quand je dis ça, je compare au tabac, je compare à l'amiante. Il n'y a pas une preuve évidente chez l'homme d'un danger dû aux perturbateurs endocriniens. Alors, pourquoi ? Parce que ces molécules, en fait, sont des molécules qui ont... Je vais beaucoup parler dans l'exposé, alors je suis un peu désolé, d'affinité d'activité. Activité, ça va être actif sur une cible.
Sur les effets, en fait.
Voilà, sur les effets. L'affinité, c'est... la concentration à laquelle la molécule est active, hein, c'est comme le poison. Le poison va tuer à forte concentration et par contre, ça peut être un médicament à faible concentration. Donc, c'est parce qu'il a des cibles différentes. Donc, l'affinité, on en parle beaucoup pour les perturbateurs endocriniens parce que c'est vrai qu'il y a des molécules comme le bisphénol A ou certains pesticides qui, en laboratoire, sur des cellules, vont être actifs. Mais est-ce que dans l'environnement, à la concentration où on les retrouve dans l'environnement, est-ce qu'à ces concentrations-là, ils peuvent être actifs ? C'est là où il y a une grosse part de doute. Toutes les évidences qu'on a de perturbateurs endocriniens, c'est beaucoup plus sur la faune, où là, il y a eu des empoisonnements massifs en cas de grande pluie, après un épandage de pesticides, après avoir mis des pesticides. Il y a une concentration forte de pesticides qui va se retrouver dans l'eau. Et malheureusement, les espèces aquatiques qui baignent dans l'eau vont être exposées à des fortes concentrations. Nous, les humains, on peut être exposés à travers l'air, à travers l'alimentation, à travers l'eau qu'on boit, mais pas à travers toute la surface du corps. Donc l'exposition est quand même très particulière et très faible. Et les concentrations aussi faibles. On parle malgré tout d'effet cocktail, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est exposé à des faibles concentrations de molécules, mais peut-être que toutes ces molécules ensemble sont capables de générer un effet. On parle aussi de fenêtres d'exposition, c'est par exemple le fœtus. Le fœtus est un peu plus sensible parce qu'il va bioaccumuler que la mère. Et surtout, on parle d'exposition réversible chez l'adulte. C'est-à-dire que chez l'adulte, quand on va être exposé à des agents féminisants, on va peut-être se féminiser un peu, mais dès qu'on sera plus exposé, on va revenir à un stade normal. Chez le fœtus, il y a des moments de la vie où il y a une action irréversible. C'est-à-dire que si un fœtus masculin est exposé, un bébé garçon est exposé à des estrogènes, à des hormones féminines, l'effet sera irréversible. Voilà. Donc il y a des fenêtres d'exposition, c'est pour ça que vous avez vu le bisphénol A interdit aux femmes enceintes. Enfin, il est interdit dans les produits pour les femmes enceintes et pour les. À cause des bébés et des mères. Voilà. Mais il n'y a quand même pas une évidence, donc malgré tout ça, il n'y a quand même pas une évidence de l'effet des perturbateurs endocriniens chez l'homme. Malgré tout, il y a un principe de précaution. Donc si le bisphénol A est peut-être un perturbateur endocrinien, on peut peut-être synthétiser un bisphénol qui garde les propriétés industrielles, mais qui soit dépourvu de l'effet toxique, même si l'effet toxique n'est pas évident chez l'homme. Voilà. Ça va être je vous ai fait le résumé de la conférence et maintenant je vais vous expliquer comment on étudie les quelques exceptions, quelques produits qui ont vraiment eu des effets dangereux. Donc je me présente rapidement. Donc je suis Patrick Balaguer, je travaille dans l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier qui est situé à Val-d'Aurel. On est vraiment une entité mixte avec l'hôpital, avec le Centre anticancéreux Val-d'Aurel, une entité qui est INSERM. INSERM, c'est l'organisme de recherche français sur l'Institut national qui travaille sur la santé et la recherche médicale. Et on est aussi Université Montpellier. Voilà. Donc j'ai une définition pour les perturbateurs endocriniens. Donc je vais vous la lire. Donc ce sont des molécules qui sont susceptibles d'agir sur l'équilibre hormonal. Et de ce fait, d'altérer des fonctions telles que la croissance, le développement, le métabolisme, la fonction sexuelle et reproductrice, et aussi d'augmenter le risque de maladies qui sont par exemple les cancers hormonodépendants comme le cancer du sein et de l'ovaire chez la femme, de la prostate et du testicule chez l'homme. Donc ces perturbateurs endocriniens, et vous remarquerez le temps, pourraient agir à faible dose, en mélange et à des périodes de grande vulnérabilité, la grossesse et, j'ai oublié de le dire, la puberté, quand on est exposé donc à des estrogènes ou des androgènes naturels. Alors l'observation dès les années 50 de la diminution de la fertilité masculine, de l'augmentation de la fréquence des cancers du testicule, du sein, de la prostate, de l'avancement de l'âge de la puberté féminine, ainsi que des effets sur la faune, donc essentiellement des espèces qui vivent dans l'eau, les poissons, les phoques, les alligators, liés à des contaminations en pesticides, ont alerté la communauté scientifique vers les récepteurs nucléaires d'hormones, et notamment les récepteurs des hormones féminines, les estrogènes, et des hormones masculines, les androgènes.
Je peux suggérer de juste préciser ce que ce sont les récepteurs. Pas beaucoup de biologie.
Alors, il va y avoir un schéma. D'accord. Donc, on garde qu'il faut que je l'explique, mais il y a un schéma pour expliquer. Alors, la signalisation hormonale, que ce soit les estrogènes et les androgènes, vous avez dans le corps des glandes qui vont produire des hormones, estrogènes pour la féminisation, androgènes pour la masculinisation. J'exagère parce qu'en fait, les estrogènes et les androgènes ont des rôles à la fois chez l'homme et chez la femme. Mais disons que le rôle, disons, principal est pour les estrogènes comme l'estradiol, la féminisation, pour les androgènes comme la testostérone ou la dihydrotestostérone, la masculinisation. Donc il y a une synthèse, pour qu'il y ait une signalisation hormonale, il faut qu'il y ait une synthèse de l'hormone dans les glandes. Ensuite, un transport de ces hormones vers les tissus cibles, les endroits où l'hormone doit agir. Et, comme le dit Patrick, à l'endroit où ces hormones doivent agir, il y a une protéine qui est en fait comme une espèce de poche ou de clé. Il y a une espèce de clé comme ça, ça s'appelle un récepteur nucléaire, dans lequel l'hormone va rentrer, et il va se passer comme si la clé tournait, et le récepteur va devenir actif, et va pouvoir déclencher toute une série de réponses qui vont, par exemple, conduire, au moment de la puberté, à la poussée des poils, à l'augmentation de la poitrine, enfin, et à la masculinisation ou à la féminisation, suivant le récepteur. Ça va ? Voilà. Et donc, les perturbateurs endocriniens, ils vont venir perturber cette signalisation hormonale. Donc potentiellement, ils peuvent le faire au niveau de la synthèse d'hormones. Si vous avez un pesticide qui va par exemple bloquer la synthèse de l'hormone, alors il y a une synthèse qui est très importante. Donc je pense que j'ai un schéma, mais toutes les hormones sexuelles dérivent du cholestérol. Donc ensuite, il y a plusieurs enzymes, plusieurs protéines qui vont transformer en différentes hormones. Donc vous pouvez avoir un effet des pesticides sur la synthèse de l'hormone. Vous pouvez avoir un effet du pesticide également sur le transport de l'hormone. Il va venir se mettre sur le transporteur à la place de l'hormone. Du coup, l'hormone ne va plus être transportée vers sa cible. Et il peut y avoir aussi une liaison des perturbateurs endocriniens sur ces récepteurs. Et s'ils se lient sur ces récepteurs, et bien les hormones ne vont pas pouvoir se lier sur le récepteur. Voilà. En gros, on peut perturber à trois niveaux. Et nous, on travaille surtout sur la dernière partie, la partie où l'hormone se lie au récepteur. Alors, ça, c'est un schéma très scientifique. C'est pour vous expliquer ce que sont les récepteurs nucléaires. C'est des protéines qu'on a qui sont exprimées dans les différents tissus et qui vont aller se lier sur la chromatine pour aller activer des gènes qui vont ensuite permettre, le passage de la puberté. Donc, ces récepteurs-là, il y en a différents. Et parmi ces différents récepteurs, il y a certains récepteurs, et notamment le récepteur des androgènes, et le récepteur des estrogènes, donc récepteur responsable de la masculinisation, récepteur responsable de la féminisation, vont lier ces molécules environnementales, vont être soit activées, soit inhibées par ces molécules environnementales, ce qui va perturber le bon fonctionnement des androgènes et des estrogènes naturels, normaux. Alors, je passe un peu peut-être, parce qu'il y a différents récepteurs qui sont... cible de ces molécules environnementales. Vous avez tout en haut à droite le récepteur des hormones thyroïdiennes, et on se demande si les problèmes de thyroïde qu'ont les femmes à partir d'un certain âge ne sont pas en partie dus à ces perturbateurs endocriniens. Les récepteurs juste en dessous, qui s'appellent PPAR, sont des récepteurs qui sont impliqués dans l'obésité, et on se demande si dans la prise de poids, en plus des problèmes d'alimentation, il n'y a pas une part de perturbateurs endocriniens. Voilà. Disons que la problématique des perturbateurs endocriniens, ils ne sont peut-être pas responsables complètement des augmentations, par exemple des cancers ou des augmentations de certaines maladies, mais par contre, ils pourraient jouer un rôle amplificateur ou juste un rôle additif. Alors, ça, c'est une cellule, et c'est pour vous montrer comment marchent les hormones. Donc, les hormones, comme par exemple les estrogènes, en haut à gauche, vont rentrer dans la cellule. Dans la cellule, il y a des récepteurs, donc ces protéines donc, qui sont comme des clés de serrure. L'hormone va rentrer dedans, le récepteur va être activé et il va pouvoir activer des gènes qui vont conduire par exemple à l'augmentation des cellules. Et par exemple, au moment de la puberté chez la femme, cette augmentation des cellules dans le sein va conduire à l'augmentation de la taille de la poitrine. Donc ça, c'est l'effet bénéfique, l'effet normal qu'on peut perturber. Et par contre, il y a une autre action de ces molécules environnementales, c'est qu'elles pourraient agir aussi au niveau des cancers. Donc pour le cancer du sein, par exemple, il y a un fonctionnement anormal des récepteurs des estrogènes, par exemple. Les récepteurs des estrogènes, théoriquement dans le sein, ne devraient fonctionner qu'au moment de la puberté, ne devraient augmenter, j'exagère en disant ça, mais en gros, ne devraient avoir une action sur la poussée cellulaire, l'augmentation du nombre de cellules, commande la puberté. Dans le cas du cancer du sein, il y a un dérèglement qui font que les estrogènes augmentent la prolifération des cancers du sein, à un âge où ils ne devraient pas le faire. Les perturbateurs endocriniens peuvent faire la même chose. Ils peuvent également, théoriquement, augmenter la vitesse de prolifération des cancers du sein. Alors, la seule difficulté que l'on a pour comprendre le rôle des perturbateurs endocriniens, c'est que normalement, les estrogènes ont une très bonne affinité pour les récepteurs. Donc à des concentrations très faibles, ils sont capables d'agir. Et le problème que l'on a, c'est que les perturbateurs endocriniens reconnaissent très mal les récepteurs des nucléaires, et en gros, on ne comprend pas comment, parce qu'ils ont une faible affinité, comment ils seraient capables d'augmenter les cas de cancer du sein. Donc, là, je vais être un peu trop scientifique, mais je tiens quand même à vous le dire. On se pose un peu la question actuellement de savoir s'il n'y aurait pas d'autres cibles que les cibles que l'on connaît pour les perturbateurs endocriniens. Et bon, là, je rentre vraiment dans les détails, mais bon, vaut mieux que je vous le dise quand même. On se demande s'il n'y a pas des récepteurs qui sont ailleurs dans la cellule et qui pourraient interagir à des plus faibles doses avec ces perturbateurs endocriniens. Alors, quand même vous dire que les estrogènes ont des effets bénéfiques, hein, qui sont au niveau du sein, donc par exemple la programmation de la production de lait, au niveau du foie, du cœur, le contrôle du cholestérol, au niveau de l'utérus, une préparation à la grossesse, au niveau de l'os, le maintien osseux. Vous savez qu'à la ménopause, les femmes ont un peu des problèmes d'ostéoporose, c'est parce que justement la quantité d'estrogène diminue. Par contre, ces estrogènes ont aussi des effets dangereux, donc au niveau du sein, ils augmentent le risque de cancer, comme au niveau de l'utérus. Donc les perturbateurs endocriniens pourraient avoir un rôle négatif en étant trop présent au moment des effets bénéfiques, en déclenchant par exemple trop la puberté, mais également très tard, en augmentant le risque de cancer. Voilà. Alors maintenant, juste vous expliquer quels sont ces perturbateurs endocriniens, parce que vous voyez beaucoup parler de bisphénol A, vous voyez beaucoup parler de pesticides, mais en fait, il y aurait beaucoup plus de molécules que ça. On estime à peu près à 150 000 composés chimiques produits et rejetés dans l'environnement. Et potentiellement parmi eux, il y en a beaucoup qui seraient donc des perturbateurs endocriniens par interaction avec ces protéines qu'on appelle récepteurs. Et donc les voies d'exposition, elles, bon, vous ne voyez pas très bien parce que c'est un peu petit, mais elles sont décrites là. Ça peut être l'atmosphère dans la maison. C'est pour ça qu'on parle de beaucoup aérer pour éliminer ces produits chimiques qui peuvent être largués par le mobilier, par des aérosols, par des choses comme ça. On peut être exposé aussi dans le cadre du travail. Je pense par exemple aux ouvriers qui produisent des pesticides, aux ouvriers agricoles qui les utilisent. Ça peut être aussi les ouvriers du plastique. On peut être exposé par l'hôpital à travers des contaminations par du matériel plastique, par exemple, par le sol, par l'eau qu'on absorbe, et par l'air qu'on respire. Voilà. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des populations plus à risque, et c'est notamment la femme enceinte et son fœtus, parce que le fœtus peut concentrer les polluants qui sont présents chez la mère, en fait. Alors, quels sont ces composés ? Donc, il y a les bisphénols, qui sont par exemple produits dans les plastiques vous avez à droite les récepteurs nucléaires cibles en initial, donc je vais vous dire que c'est le récepteur des estrogènes et le récepteur des androgènes. Il y a un récepteur qu'on appelle PXR qui est présent dans le foie et qui est chargé de détoxifier. Les alkylphénols qui sont présents dans les détergents, les phtalates qui sont présents dans les plastiques, les pesticides, donc juste vous dire le DDT et le chlordécone. Alors, pourquoi parler de ces pesticides alors qu'ils sont interdits ? Ben, ils sont interdits, mais c'est une ancienne génération de pesticides qui était persistant et qu'on retrouve encore dans le sol. On retrouve encore de la chlordécone dans le sol des Antilles, en fait. Alors que les pesticides qui sont produits maintenant sont moins persistants, c'est-à-dire qu'ils vont être actifs quand ils vont être répandus et puis ils vont ensuite se dégrader. Sauf qu'ils sont aussi moins efficaces. On se demande s'il ne faudrait pas revenir à des pesticides persistants quand on veut éradiquer certaines espèces. Je pense au chikungunya, je pense au moustique-tigre. Voilà. La ligne d'après les pesticides, ce sont les BPA, les bisphénols halogénés. Donc, c'est des produits qui sont présents c'est des produits qui empêchent la prise de feu. Ce sont des retardateurs de flamme. Ils sont présents dans les matériaux de construction, ils sont présents dans les ordinateurs. Et ce sont par exemple des produits qui auraient des effets obésogènes. Les composés perfluorés, ce sont les revêtements des poils Tefal. Ce sont des produits qui sont aussi présents dans les nouveaux types de vêtements résistants à l'eau. Les cosmétiques, donc les parabènes ont été pas mal interdits, mais il y a d'autres produits comme les benzophénones, qui sont des écrans UV qui sont aussi perturbateurs endocriniens. Et enfin, peut-être les molécules les plus dangereuses, les organoéthins, c'était des produits qui étaient présents dans les peintures de bateaux qui maintenant ont été interdits. Ce sont des produits justement qui agissent à des très faibles concentrations et qu'on retrouve par contre malgré tout, parce qu'ils ont été interdits pour les peintures, mais on les retrouve comme conservateurs, à plus faible concentration que dans les peintures de bateaux, mais on les retrouve encore comme conservateurs. Donc juste une illustration pour vous montrer où on va retrouver tous ces types de produits. Vous voyez que c'est tous des produits de consommation, les tétines de biberon, bon, ça a été interdit maintenant, les détergents. Pour les phtalates, c'est tout ce qui est plastique. Pour les pesticides, c'est des bananes qui sont présentes, parce que le chlordécone a beaucoup été utilisé pour les plantations de bananes. Les dérivés halogénés, c'était des circuits d'ordinateur. Les composés perfluorés, donc les poils Tefal. Les écrans UV, vous voyez une jambe avec une personne qui se met des benzophénones. Et en bas à droite, c'est une coque de bateau pour les organo-éteints. Organo-éteints. Alors, ils ont été utilisés comme anti-fouling dans les peintures de bateaux. Il y a longtemps que c'est interdit parce qu'il y a eu des... Oui, ça a été interdit suite aux effets, par exemple, à Arcachon sur la production d'huîtres. Donc, imaginez un produit qui est dans une peinture de bateau qui va réussir à affecter un élevage d'huîtres. C'est vous dire la sensibilité. En mer, en fait. Voilà. Mais... quand vous le mettez sur la coque, il est concentré. Quand il se décroche, il est dilué. On aurait pu penser que la dilution... Donc, en fait, voilà. Alors, il reste... Je crois qu'il est encore un peu utilisé pour la peinture des bateaux de guerre. Il a été interdit pour les bateaux de plaisance, enfin, les bateaux non de guerre. Et on peut le retrouver dans les vêtements. On peut le retrouver dans certains médicaments. Voilà, mais bon, à des plus faibles concentrations. Alors, j'ai un peu là essayé de résumer les actions à mener concernant les perturbateurs endocriniens. Donc, il faut caractériser leur activité potentielle. Elle n'est pas encore complètement caractérisée pour toutes les molécules produites et rejetées dans l'environnement. Il faut aussi essayer d'identifier quels composés résistent, parce que l'environnement, il y a de la transformation, il y a du traitement. Quels sont les composés qui résistent ou quels sont les produits transformés. Parce que ce n'est peut-être pas les produits de départ qui sont actifs, ça peut être leurs produits transformés. Donc nous, on fait un gros travail sur tout ce qui est échantillon environnemental. Donc c'est soit des sédiments de rivière, ça peut être aussi travailler dans des stations d'épuration, sur l'eau de rejet, sur les boues de ces stations, pour essayer de voir au final qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui donc persiste dans l'environnement. Et il faut garder en tête que quand on interdit un produit comme le bisphénol A, par exemple, on puisse proposer un produit de substitution. Là, l'interdiction d'utilisation du bisphénol A est un peu en ce moment embêtante, parce qu'on n'a pas proposé aux industriels un produit de substitution. On leur en a pas proposé un, donc ils en cherchent par eux-mêmes, mais eux ne savent pas chercher des produits sans perturbateurs endocriniens. C'est pas ils n'ont pas ces connaissances-là. Donc on est allé très vite en interdisant le bisphénol A sans recommander un produit de substitution. Hein? Là, vous avez un peu la problématique actuelle avec le questionnement actuel. Et des fois, on va trop vite dans les interdictions. Quand on a interdit les parabènes, on a interdit tous les parabènes. Alors que les parabènes sont des molécules qui ont une structure commune à un endroit et ensuite une espèce de chaîne qui est plus ou moins longue. Les parabènes à chaîne courte ne sont pas dangereux. C'est uniquement les parabènes à chaîne longue. On aurait pu interdire les parabènes à chaîne longue et garder les parabènes à chaîne courte. On a interdit les parabènes. Globalement, c'est toujours l'action un peu politique qui va des fois plus loin que le scientifique. Ou de toute façon, si vous voulez, à partir du moment où on dit on interdit les parabènes, même si c'est des parabènes à chaîne longue, vous ne vendrez plus des parabènes à chaîne courte. Hein, c'est pareil pour le bisphénol. Vous ne pourrez jamais proposer une molécule qui s'appelle bisphénol S que nous on sait moins actif, parce qu'elle ressemble trop au bisphénol A, de par le nom. C'est toute la difficulté ensuite où les politiques doivent faire le servir d'intermédiaire entre le public et les scientifiques. Alors là, je vais être un peu technique, mais je vais vous montrer un peu quelles sont les méthodes de détection de ces perturbateurs endocriniens qu'on utilise. Donc il y en a de différents types. Il y a des méthodes informatiques et cristallographiques, il y a des méthodes que j'appelle tubes à essai, des méthodes cellulaires, vous voyez que ça peut être très joli, et des méthodes animales, en vous montrant quand même qu'on essaye de réduire le nombre d'animaux qu'on utilise pour les expériences scientifiques. Donc là, j'ai juste quelques illustrations de méthodes. Alors, les méthodes qui sont vraiment, vraiment très élégantes, ce sont des méthodes où on va produire en très grande quantité ces récepteurs nucléaires, on va les cristalliser, on va former vraiment un cristal, ça va ressembler à un diamant. Ce diamant est en fait constitué de molécules de récepteurs purs, et on va l'exposer au rayon X, donc pour ça il faut aller au synchrotron à Grenoble, et vous allez avoir cette structure. Donc ici vous avez deux récepteurs nucléaires, avec au milieu l'espèce de cage, hein, l'espèce de trou de serrure dans lequel le ligand vient. Ce cristal va permettre de créer un modèle informatique, voilà, qui est ici, qui est représenté ici, dans lequel, si on a par exemple cristallisé le récepteur avec l'estradiol, l'hormone naturelle, on sait maintenant comment le trou de serrure est organisé, à quel endroit il a des bosses, à quel endroit il a des trous, et donc on va pouvoir imaginer si un perturbateur endocrinien peut rentrer à l'intérieur ou pas, peut être dangereux ou pas. Le problème, c'est que ça, c'est la théorie. Parce qu'on n'a pas une serrure, en fer. On a une serrure qui est comme un peu du plastique et qui peut se déformer et s'adapter au ligand. Donc, vous voyez, on n'a pas des... on a des belles idées, mais ensuite, dans la réalité, il faut s'adapter. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas. Ça aide à comprendre, mais... des fois, la nature est plus forte que tout et la molécule va rentrer à l'intérieur, va déformer la serrure et ça va bien tourner. Alors qu'au départ, on aurait pu penser que la clé ne rentrait pas dans la serrure. C'est pour ça que pour cette problématique-là, on est obligé d'utiliser différentes techniques. Donc là, c'est des techniques que j'appelle bioinformatique cristallographique. Après, il y a des techniques tube à essai. Donc là, on a du récepteur et on va utiliser... soit de l'estradiol radioactif, soit de l'estradiol fluorescent. Donc ça, c'est les molécules naturelles. Ça va se lier au récepteur. Et on est capable de voir que le récepteur, il est soit radioactif, soit fluorescent. Et ensuite, quand on va le mettre en présence avec un perturbateur endocrinien, si le perturbateur endocrinien n'est pas capable d'interagir avec le récepteur reste radioactif et fluorescent. Si le perturbateur endocrinien est capable de rentrer dans le récepteur, la radioactivité ou la fluorescence va sortir. Donc on essaye de mesurer ça. La séparation entre le récepteur et la fluorescence ou la radioactivité. On a des méthodes cellulaires qui sont très originales. Tout à l'heure, je vous ai dit que les estrogènes ou les perturbateurs endocriniens pouvaient augmenter la taille d'un cancer du sein. Et bien, ces cellules de cancer du sein, elles ont été prélevées, donc il y a très très longtemps, pour les MCF7, je pense qu'il y a au moins une cinquantaine d'années. Au moins. Hein. Voilà. Ces cellules de cancer du sein ont été prélevées chez une patiente, et depuis, comme c'est des cellules immortelles, on les utilise dans les laboratoires. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on les met dans une boîte et on met de l'estradiol ou des perturbateurs endocriniens. Si au bout d'une semaine, les cellules se sont multipliées par un facteur 4 à 5, c'est que le produit est capable d'activer le cancer.
C'est pas une patiente aux États-Unis ?
C'est ça, qui est décédée depuis. Bon, toute l'origine des lignées cancéreuses, en général, viennent de patients, en fait, qu'on cultive dans les laboratoires. Et c'est des outils vraiment très importants, parce qu'on est très proche de l'in vivo. Mais on est dans des laboratoires et on travaille en culture. Voilà. Et donc, à droite, je vous ai mis un graphe. Donc, la partie basse, c'est la concentration, c'est-à-dire la présence des molécules. Et la partie gauche, ici, c'est l'effet. Donc là, il n'y a pas d'effet. Ça, c'est l'estradiol, l'hormone naturelle, qui agit à des concentrations, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, de l'ordre de la picomole, 10-12 mol. Et par contre, si on travaille avec des bisphénols, il faut 1 million de fois plus de molécules pour avoir le même effet. C'est ce décalage qu'on observe. Donc ça, c'était pour vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les estrogènes sont capables d'agir à faible concentration. Par contre, ces perturbateurs endocriniens, il faut vraiment des très fortes concentrations. Et on n'est pas sûr que ces fortes concentrations soient retrouvées dans l'environnement. Quand on les mesure, on n'est pas de cet ordre-là. C'est pour ça qu'on se pose encore la question de savoir si les molécules environnementales ont un effet réel, parce que, de fait de leur concentration et de leur affinité, elles ne devraient pas jouer un rôle. Je rappelle juste le cas des organoéthanes. Là, on avait affaire à des molécules actives à des faibles concentrations. Parce que même diluées dans la mer, elles continuent à avoir un effet. Voilà. Et nous, on travaille beaucoup sur une méthode très élégante. Là, je vous avais montré, c'était de la prolifération, il faut attendre une semaine. On travaille sur une technique très élégante qui consiste à mettre le gène de la luciférase de luciole dans des cellules.
Le gène de
la luciférase de luciole.
Luciférase de luciole.
Voilà, dans des cellules humaines. Voilà. Ce gène de luciférase de luciole, on ne le met pas tout seul. On met devant lui, donc là on travaille sur la chromatine, hein, sur les gènes, on met devant lui un morceau d'ADN qui va fixer le récepteur. Et en gros, dans des cellules où on mettra ce gène de la luciférase avec cette petite partie qui reconnaît le récepteur, si on a des estrogènes, les cellules produisent de la lumière. S'il n'y a pas d'estrogènes, les cellules ne sont pas lumineuses. Et cette détection-là, il faut quelques heures pour l'avoir. Donc on a rendu lumineuses des cellules humaines, comme c'est des cellules du cancer du sein. Vous avez le récepteur qui est dans le noyau de la cellule, et en présence d'estrogène, il va venir se fixer sur le promoteur, et vous allez avoir une émission de lumière. Pour mesurer cette émission de lumière, ce n'est pas des émissions de lumière comme les lucioles qu'on voit à l'œil nu, hein, c'est des émissions très faibles, il faut des appareils, des luminomètres. Voilà. Donc, on travaille avec des plaques de culture. C'est des plaques 96 puits qui font cette taille-là, dans lesquelles on va mettre des cellules. Donc, il nous faut des témoins négatifs et des témoins positifs. En général, ici, nous, on met un témoin négatif. Ici, on met un témoin positif. Vous voyez que c'est lumineux. Pareil de l'autre côté, témoin négatif, témoin positif. Et au milieu, on va mettre le produit à des concentrations différentes pour essayer de voir à quelle concentration il rend les cellules lumineuses. Donc en haut, c'est fait en quadruplé. Hein. En scientifique, on répète toujours les expériences et on travaille en plusieurs fois pour être sûr de ce qu'on voit. Vous voyez que le produit du haut, de gauche à droite, il devient un peu lumineux. Alors on ne le voit pas très bien, mais il y a un peu de... La couleur est bleue quand il n'y a pas beaucoup de luminescence, rouge un peu plus, orangé et jaune quand c'est vraiment très lumineux. On voit que là, on a un peu de bleu. Donc ce produit est un peu actif. Par contre, celui-ci, il est beaucoup plus. Parce qu'au lieu d'être bleu à cette concentration-là, il est bleu à celle-ci. Là, il y a à chaque fois trois fois plus de produits, à chaque fois. Hein. Et il devient même
presque aussi fort que le produit de référence positif, que le contrôle positif.
Donc voilà le type de test qu'on fait. Ça, c'est en quelques heures avec des robots, on peut tester beaucoup de produits avec beaucoup de concentration. Donc je vous montre juste les robots qu'on utilise. Voilà, c'est des... Si vous voulez, pour essayer de passer le plus possible d'échantillons, de travailler avec le plus de concentration possible, on utilise ces robots. Et ces robots... Alors, je ne sais pas si l'animation va marcher. Voilà. Vous voyez ? C'est devenu un peu classique dans les laboratoires de criblage. Ils vont... vous allez mettre dans la première rangée votre produit et ces robots vont les diluer, donc à partir d'une forte concentration vers une faible concentration, et ensuite vont traiter les cellules. Voilà. C'est un peu comme de la machine-outil Renault, mais adaptée à des petits puits. Hein, je vous rappelle que les plaques blanches que vous voyez, c'est des plaques qui sont à peu près comme ça. Et vous voyez que là, on peut tester beaucoup de produits et assez rapidement. Voilà, ça c'est juste pour vous illustrer le type de matériel qu'on utilise. Voilà. Et puis c'est moins... Enfin, c'est pas fatigant, mais c'est pas un travail très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est l'interprétation des résultats. Voilà. Mais avant, il fallait le faire manuellement. Hein, donc, et on le faisait, parce qu'il fallait bien commencer. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous... Je ne sais pas, vous ne m'avez pas posé la question, vous n'êtes pas surpris qu'il y ait des molécules qui dans l'environnement, ressemblent aux hormones naturelles. Vous n'avez pas été surpris. On fait du bisphénol A, on fait des pesticides, et tiens, ça marche comme une... Bon, avec moins d'affinité, mais ça marche comme une hormone. Voilà. Non, mais pourquoi? Mais comment ça marche? Pourquoi? En fait, c'est une question de structure. Hein, c'est une question de structure. C'est pour ça que je vous ai mis quelques... On va aller un peu vers la chimie, là. Voilà, enfin, bon... Voilà. Ça, c'est l'estradiol, c'est-à-dire c'est l'hormone naturelle qui va se fixer, donc c'est la clé qui va rentrer dans la cellule qui est le récepteur des estrogènes. Bon, c'est de la chimie, hein. Il y a des cycles, là, c'est des fonctions oxygène-hydrogène, hydroxyle, il y en a deux. Ça, c'est ce qui fait que l'estradiol est une hormone de forte affinité pour le récepteur des estrogènes. Et d'ailleurs, l'industrie pharmaceutique s'est inspirée de la structure des hormones naturelles pour faire, par exemple, utiliser l'estradiol, le produit qui est présent dans la pilule contraceptive. Vous voyez que ça ressemble beaucoup. Donc, dans certains cas, les perturbateurs endocriniens comme le bisphénol A ressemblent un peu à ces structures-là. Mais dans d'autres cas, ça ne ressemble pas. Mais ça ne ressemble pas quand on les voit, mais dans la structure tridimensionnelle de la présence liée au récepteur, ça ressemble un peu à une hormone naturelle. Voilà. Donc là, je vous ai montré les structures des hormones naturelles.
Je ne comprends pas. C'est une question de structure dans l'espace. C'est ça la différence?
Oui. 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 D'accord. Vous pouvez avoir un dérivé de l'estradiol qui ne se lie pas du tout au récepteur, parce qu'ici, par exemple, il va avoir une petite modification. Et vous pouvez avoir une molécule très différente de ça, je vous en montrerai une, qui va se lier comme l'estradiol. Parce qu'elle va se tourner, s'organiser, et le récepteur va aussi s'adapter à elle.
D'accord,
Et c'est relativement difficile. En général, tout à l'heure, je vous ai parlé de modélisation. Avec la modélisation, on arrive à expliquer les résultats, mais en général, après coup. Avant, c'est plus difficile. Parce qu'il y a une certaine flexibilité. Mais... Elle n'y est pas toujours la flexibilité. En fait, elle est des fois possible et pas possible.
C'est la probabilité que ça se passe.
Ouais. Voilà. Donc là, je vous ai montré, essayé de mémoriser un peu la structure de l'estradiol. Vous voyez, en fait, il y a quatre cycles. Ici, 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 et deux fonctions hydroxyle. Et le bisphénol A, vous allez voir que ça ressemble un petit peu, avec moins de cycles, ça ressemble un petit peu. Voilà, c'est deux cycles. Ça c'est le bisphénol A, ça c'est le bisphénol AF, ça c'est le bisphénol S. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu parce qu'il n'y a pas quatre cycles, il n'y en a que deux, mais il y a quand même de l'espacement au milieu et il y a les deux fonctions oxygène-hydrogène.
Donc ce qu'il a fallu que l'on fasse, le travail que l'on a fait, par exemple avec William Bourguet à Montpellier, c'est d'essayer de trouver un bisphénol qui garde les propriétés industrielles mais qui n'est pas d'effet estrogénique, qu'il n'y ait pas cet effet de liaison au récepteur. Donc pour cela, on a comparé différents bisphénols, et vous les avez à gauche. Le nombre de croix, c'est l'activité sur les récepteurs. Et en fait, celui-ci pourrait être utilisé en substitution du bisphénol A, parce que finalement, le fait qu'il ait ici cette fonction-là le rend moins affable. Et ça, si vous voulez, pour le mettre en évidence, on a un peu tout fait. On a fait les tests cellulaires que je vous ai dit, on a fait de la cristallisation aussi de récepteurs, et on a proposé ce bisphénol-là en substitution. Donc là, j'ai plusieurs exemples de molécules où on a compris les effets du perturbateur endocrinien. Par contre, on les a compris, mais je tiens à vous dire que, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, vous avez une différence énorme d'affinité. Hein. Vous avez l'estradiol ici, et il faut de 10 000 à 100 000 fois plus de bisphénol pour avoir un effet. Et là, je parle des bisphénols qui ont de l'effet. Ce bisphénol S, lui, il serait carrément ici. Hein. Il faudrait 1 million à 10 millions de fois plus qu'il en effet. Donc on a fait ce même travail avec des altiphénols, donc c'est les produits qui sont dans les détergents. Vous voyez, ces produits-là, ils sont actifs comme les bisphénols. Pourtant, ils n'ont qu'un cycle ici, ils n'en ont pas un deuxième là, et surtout, ils n'ont pas la deuxième fonction hydroxyle, ils n'en ont qu'une là. Et pourquoi ils sont capables d'être actifs? Parce qu'ils ont un autre mode de liaison que l'estradiol. L'estradiol, en général, il y a un deuxième hydroxyle ici, et eux, en fait, arrivent à se lier que par un seul et là, se replier. Donc ça, vous voyez, c'était un peu difficile à prévoir. Et ce qu'on a fait, toujours pareil, c'est tester différents altiphénols et proposer celui-ci en substitution. Celui-ci a très peu d'affinité, il est très très court sur le récepteur, mais il garde des propriétés détergentes. Voilà, donc ça c'est le type de travail qu'on essaye de faire. Juste une petite parenthèse, on entend beaucoup dans la presse qu'il y a des scientifiques qui sont vendus aux industriels. Alors moi je me considère comme un industriel vendu aux un scientifique vendu aux industriels. Il faut savoir qu'on n'a pas d'argent de l'État. D'accord? Donc quand il y a un industriel qui vient vous voir et qui vous dit « Est-ce que vous pourriez tester les activités de différents altiphénols ?» Ben, on lui dit « Oui, il va nous donner de l'argent. On va pouvoir mettre en évidence quels sont les altiphénols les plus dangereux. » Et on ne va pas dire « C'est celui que vous nous avez demandé de dire qui n'est pas dangereux. » On a quand même une conscience. Et puis si vous voulez, il faut qu'on publie. Quand on publie, on va être critiqué par d'autres scientifiques. Donc on ne peut pas dire des cracks. On va essayer de dire la vérité. Déjà pour ne pas être critiqué sur notre valeur scientifique. Donc c'est vrai qu'on est vendu aux industriels. On a travaillé sur les altiphénols, on a travaillé sur les bisphénols. Vous voyez? Donc juste vous dire que les médias, des fois, ça exagère un peu. Et qu'en plus, si on refusait l'argent des industriels, on ne pourrait pas travailler. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'argent en France pour faire de la recherche. Hein. Ça, c'est... Voilà.
Vous n'êtes pas vendu, vous êtes loué.
Même loué, je sais. Enfin.
Vous n'êtes pas vendu. Je rigole.
Non, mais je cherche pas le.
C'est très bien de dire comme ça. Le contrat passé avec l'industriel, maintenant, le résultat scientifique, le livret, il en fait. Et si j'avais dit l'industriel, allez, les gars, c'est eux qui.
Oui.
Non, permanente, c'est comme ils sont rémunérés, on leur dit attendez, si vous n'aurez pas ce contrat la prochaine fois, si vous aurez du plan, vous ne venez pas. C'est ça le truc.
Non, c'est important de faire l'aberration. C'est important de faire la différence entre le fait d'être payé par les industriels et le fait d'être corrompu.
C'est très dangereux avec les industriels.
Alors, on n'est pas toujours libre, c'est que des fois on a des contrats avec les industriels. Et ils ne veulent pas qu'on publie des résultats. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait... Moi, j'ai travaillé pour L'Oréal là-dessus. Ils ont tellement peur qu'on dise que leurs produits sont cosmétiques, il a fallu qu'on a testé leurs produits. On ne pouvait pas publier des résultats sur leurs produits. Par contre, j'avais demandé à ce qu'on ait une liste de molécules cosmétiques qui ne leur appartiennent pas et sur laquelle on pouvait publier. Donc, on a publié le travail sur les cosmétiques et pas L'Oréal. Et eux, ils ont les résultats. Et je les connais, mais là, j'ai pas le droit de parler sur leurs résultats. Voilà. Mais eux, en interne, ces données-là, et ils vont ne pas utiliser les produits-là, parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, quelqu'un peut montrer qu'ils sont actifs, en fait. Voilà. Et des fois, je travaille même en aveugle, c'est-à-dire que des fois, je fais un travail, c'est-à-dire que j'ai les produits X, Y, Z, et je rends les résultats. Voilà.
Est-ce que ça vous est arrivé, malgré vos découvertes?
Ben, j'imagine que si c'est des produits en cours, ils doivent continuer à les utiliser. Mais ils prennent un risque, c'est que ça va finir par savoir. Et l'idée, si vous voulez, l'idée c'est de... Même pour les pharmaceutiques, l'idée c'est maintenant de savoir le plus tôt possible quand est-ce qu'un produit va être interdit. De façon à ne pas aller très loin dans les phases de test. Donc ils sont plutôt dans une politique de surtout ne pas avoir de problème avec leurs produits, pas de la peur, forcément de la peur du scandale, mais surtout pour éviter d'investir sur le produit. Donc ils ont une banque de produits et ils veulent qu'on sache très vite lesquels vont être dangereux ou pas. Voilà. Après, je ne vous dis pas que je suis toujours content de travailler avec les industriels, hein, mais par contre, on peut pas travailler sans eux, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, les produits cosmétiques. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur les benzophénones et les parabènes, et on milite pour que les benzophénones, on y fasse un peu attention, parce que les parabènes ont été interdits, alors que pour nous, ils ont beaucoup moins d'effet que, par exemple, les benzophénones. Donc ça, c'est des études qu'on a publiées. Hein, la benzophénone 2 est assez active, c'est le nombre de croix qui est là, elle continue à être utilisée. La benzophénone 3 n'est pas active, voilà, il faudrait plutôt utiliser cette benzophénone. Au niveau des parabènes, tous ont été interdits, alors que c'est celui qui a la chaîne la plus longue, le butylparabène, qui est vraiment dangereux. Le méthylparabène avec une chaîne très courte ne l'est pas. Encore une fois, pour faire ces études, on a travaillé avec des tests cellulaires, des tests de tubes à essai, et on a fait de la cristallisation. Hein. On n'est pas arrivé à ce résultat-là facilement, en fait. Il a fallu développer différentes techniques et collaborer. Et ça a été, c'est le travail de plusieurs laboratoires, hein, pas uniquement du mien. Là, je vous parle des organoéthins. Alors, les organoéthins, là, ça nous a vraiment intéressés. Ça nous a intéressés parce que, regardez la structure de ces molécules-là. Ça ressemble absolument pas à ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Un atome d'éthin, trois chaînes comme ça, et c'est capable de se lier avec des très fortes affinités sur des récepteurs. Là, on a travaillé sur ces molécules-là. Il y a eu l'effet sur les ultra-arcachons, mais il y a eu l'effet sur les impostexes. Ça masculinisait les escargots aux États-Unis. Donc là, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment de comprendre comment cette structure-là pouvait avoir cet effet-là. Parce qu'on connaissait les récepteurs actifs sur ces espèces-là, et les molécules ne se ressemblent absolument pas. Absolument pas. Jusqu'à présent, vous avez vu qu'il y avait un peu une similitude. Il y avait les cycles, il y avait un certain nombre de cycles, il y avait ces fonctions OH. Hop, pardon. Donc j'ai pas la diapositive qui va se rentrer dans les détails. Donc c'est ici. En fait, ce qui se passe, c'est que cet atome d'éthin-là va se lier de façon définitive au récepteur. Et ça s'appelle une liaison covalente. Ça, en fait, c'est un mode de liaison qui n'existe pas dans la nature. En gros, sur les récepteurs nucléaires, on n'avait jamais vu une hormone se lier comme ça. C'est vraiment un mode de liaison qui est, j'allais dire, extra-normal. Non, covalente, ça veut dire définitive. Covalente.
Covalente, il y en a beaucoup dans tout un tas de molécules minérales.
Même organique. Mais comment dire ? La liaison de l'hormone sur le récepteur n'est jamais une liaison covalente. C'est une serrure qui rentre et qui ressort. Là, c'est comme si on avait du ciment. C'est-à-dire ça rentre et ça se fixe. Ça n'existe pas naturellement pour le récepteur nucléaire. C'est vraiment parce qu'on a généré un produit industriel avec un atome d'éthin ici. Cet atome d'éthin va se lier à une cystéine sur le récepteur et ça va entraîner une liaison covalente. Ça, c'est vraiment extra-normal. En fait, on n'est plus sur un mode de liaison d'une molécule qui ressemble à celui d'une hormone, on est sur un nouveau mode de liaison qu'on a provoqué. Et ce mode de liaison pourrait même servir à des nouveaux types de médicaments. On pourrait utiliser cette faculté-là pour faire des médicaments plus efficaces. Parce que si vous voulez, cette molécule-là est capable de se lier à sa cible beaucoup plus efficacement parce qu'il y a une liaison covalente. Ça n'avait pas été trop imaginé pour les médicaments. À la suite de ça, ça pourrait l'être. La seule chose qui gêne, par exemple, l'industrie pharmaceutique, c'est que la chimie de l'éthin est un peu dangereuse, donc ils ne veulent pas trop le faire. Mais sinon, le mode de liaison covalent pourrait créer un nouveau type de médicament. Ça pourrait servir à quelque chose, en fait. Et ça, on s'en est observé un peu, on s'en est rendu compte un peu par hasard. Voilà. Donc, cette dernière diapositive, c'était pour vous dire que jusqu'à présent, on avait eu des modes qui ressemblaient aux modes des hormones, mais là, on commence à se rendre compte qu'il y a des modes différents des modes des hormones, parce qu'on a inventé des produits différents des hormones. En fait, on a créé des nouveaux produits, ben, ils peuvent se lier à des récepteurs ou à d'autres protéines d'une façon différente. Maintenant, je vais juste vous décrire un travail très récent qui a vraiment fait la une de la presse. Donc, je vous parle de ce récepteur PXR qui est présent dans le foie, qui a un rôle protecteur, c'est-à-dire que c'est un récepteur qui, quand on est exposé à des fortes concentrations de quelque chose, une toxine, il va l'éliminer, il va agir sur le métabolisme pour l'éliminer. Et c'est un récepteur qu'on aimerait ne pas activer dans certains cas. Par exemple, quand vous prenez un traitement anticancéreux, il faudrait bloquer ce récepteur pour qu'il ne détruise pas le médicament anticancéreux. Pourquoi ? Parce que comme ce récepteur reconnaît le médicament anticancéreux comme un agent exogène, il va essayer de le détruire. Donc il va falloir, pour que ce soit efficace, en mettre plus. Et vous allez avoir des effets toxiques. Hein. Quand on prend des anticancéreux, on a toujours des effets toxiques à cause de la forte dose. Donc c'est un récepteur qu'on voudrait ne pas voir activé. Et c'est un récepteur qui est souvent testé quand on met au point un médicament. Alors ce récepteur est capable de reconnaître beaucoup de produits. Hein. C'est parmi les récepteurs nucléaires celui qui reconnaît le plus de molécules naturelles rejetées dans l'environnement, comme des pesticides ou des actifénols ou des hormones. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, en faisant... C'est un récepteur qui est un peu différent des autres parce que la serrure est un peu plus grande. Et on s'est demandé, avec un collègue, si ce récepteur... Le code naturel, en général, c'est qu'un récepteur lie une hormone. Hein, une hormone, un récepteur. Et on s'est demandé si ce récepteur-là ne pouvait pas reconnaître plusieurs hormones en même temps. Parce qu'il a une serrure qui est très grande. Donc c'est un peu la question qu'on s'est posée. Et on a fait, sur nos cellules qui expriment ce récepteur, des combinaisons de molécules. Et notamment, l'éthylène et l'estradiol, qui est présent dans la pilule contraceptive, et un pesticide. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces deux produits ensemble étaient capables d'activer le récepteur beaucoup plus que si elles étaient seules. Et c'est pour ça que notre article s'est un peu appelé l'effet cocktail, et qu'il a beaucoup été repris par la presse. Parce que ce qu'on a montré, c'est que deux molécules qui seules n'ont pas d'effet, parce qu'elles sont capables de se mettre ensemble, et de créer comme une nouvelle molécule, elles peuvent avoir plus d'effet à deux. Alors là, c'était vrai pour un pesticide et pour un produit pharmaceutique qui est quand même l'éthylène estradiol, hein, le constituant majeur de la pilule contraceptive. Mais ce qu'on a aussi proposé, c'est que deux médicaments ensemble pourraient avoir cet effet très fort et pourraient expliquer certaines interactions médicamenteuses. Vous voyez ? Ça, c'est un peu pour vous dire qu'on sort un peu du schéma classique. Un récepteur, une hormone. Donc là, c'est juste vous montrer le travail qu'on a fait sur des cellules. Vous avez ici les deux, ce qui mime l'effet des deux molécules seules, vous voyez, à ces concentrations-là, elles vont être actives comme ça. Si on fait une courbe théorique du mélange, c'est la courbe en pointillé ici, et en fait, dans la réalité, au lieu d'être là, on est là. On est beaucoup plus actif. Voilà. Et ça, on l'a montré dans des cellules, sur des hépatocytes de donneurs de foie, on l'a montré sur différents types de matériel. Et on l'a expliqué par le fait que, contrairement à ce qui se passe naturellement, au lieu qu'il y ait une seule hormone dans le récepteur, en fait, il y en a deux qui vont se mettre de part et d'autre de la serrure, qui vont interagir entre elles pour bien bloquer la serrure et bien plus tourner que s'il y avait une seule des deux molécules. Alors, on ne dit pas que c'est un phénomène général, mais on dit que c'est un phénomène qui peut se produire, donc qui peut expliquer certains effets cocktails de perturbateurs endocriniens et surtout certaines interactions médicamenteuses. Oui.
L'implication, c'est que on est susceptible d'avoir des effets avec des combinaisons, mais est-ce qu'on peut les prédire, ces combinaisons, ou est-ce que ça va obliger les industriels à tester
Alors, ça va être entre les deux. Je pense que tu ne peux pas le prédire comme ça, parce que c'est difficile de prévoir. Là, on est en train de tester 2000 molécules pharmaceutiques ensemble. Oui. Alors, par contre, ce qu'on a fait quand on a testé nos 2000 molécules, parce que 2000 molécules en combinaison, ça fait plus d'un million de combinaisons, hein, c'est énorme. Donc quand même, on s'intéresse à des molécules qui sont capables d'être un peu actives toutes seules. Parce que je ne pense pas que deux molécules... Enfin, je pense pas. On pourrait penser que c'est possible, hein, mais on ne pourra pas l'intégrer dans une stratégie de ciblage. Donc on s'intéresse à des molécules qui ont un peu d'effet seul, et on va essayer de rechercher lesquelles ont un effet plus fort à deux. Et pour l'instant, on a déjà trouvé d'autres molécules, on tombe sur à peu près une chance sur 1000 de trouver un couple qui fonctionne. Donc ce qui fait quand même pas mal, hein. Ce qui fait pas mal, ouais.
Et inversement, sur les interactions médicamenteuses qui sont connues, il est expliqué.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut maintenant, en étant conscient de ça, aller partir sur ce qui est connu en termes d'interaction médicamenteuse et se dire, est-ce que ça passerait pas par ça?
Ouais.
Voilà, tout à fait.
Et éventuellement, imaginer un nouveau médicament.
Voilà. Voilà. Et après, si vous voulez, là, on a donc identifié que ce pesticide-là interagit avec l'éthine et l'estradiol. Donc, on sait que l'éthine et l'estradiol est ici. Le pesticide est là. Donc, maintenant qu'on sait que ces deux-là sont ici, on peut peut-être plus facilement imaginer qu'une autre molécule estrogénique, et on l'a vérifié, l'estradiol, peut aussi synergiser, parce qu'elle sera liée comme l'éthine et l'estradiol. Et vice-versa pour un autre pesticide. Donc là, on a déjà trouvé un autre médicament pharmaceutique qui ressemble un peu à l'éthine et l'estradiol, mais qui n'est pas un estrogène, qui synergise avec le pesticide. Vous voyez, ça, on a au plus vous avez des... Vous mettez en évidence des mécanismes, au plus vous avez des idées et des pistes pour simplifier le criblage derrière.
C'est lequel?
Là, c'est le transonacor, ici. Le transonacor. Il est presque plus utilisé, mais il est un peu persistant. Mais il y a d'autres dérivés qui marchent un peu aussi, un peu moins bien que lui, de cette famille-là, en fait. Transonacor. Par contre, c'est des effets à forte concentration. Malgré tout, malgré la synergie, c'est des effets à forte concentration. Hein. C'est pour ça qu'on est plus intéressé par l'aspect pharmaceutique, parce que quand vous prenez des médicaments, vous prenez des fortes doses. Donc il y a plus de chances d'avoir ce type d'effet avec des médicaments qu'avec deux perturbateurs endocriniens que vous allez consommer par l'alimentation, et donc là, ça va être des doses faibles. Voilà. Donc là, je vous ai beaucoup montré ce qu'on faisait sur des produits purs. On travaille également, donc, en collaboration avec l'INERIS, sur des échantillons environnementaux, donc soit des sédiments de rivière, soit des boues ou des eaux de station d'épuration, et on travaille sur des activités donc estrogéniques, de type dioxine, de type PXR et de type androgénique. Et juste vous dire qu'en général, on arrive à bien expliquer les activités estrogéniques et dioxines, et on a du mal à expliquer les activités androgéniques et PXR. Donc là, il y a un travail d'identification. Et donc, ce que l'on fait pour identifier les produits qui sont présents, parce que ce n'est pas forcément des produits que l'on connaît, ça peut être des produits transformés. Les récepteurs qu'on utilise pour faire de la cristallisation nous servent un peu de piège à molécules dans l'environnement. Et derrière, on fait de l'analyse chimique pour essayer d'identifier les molécules. Voilà. Donc, il y a un travail de fait sur les eaux de rivière, sur les stations d'épuration. Juste vous montrer un type d'exemple qu'on peut retrouver dans des rivières polluées. C'est l'intersexe de poissons. Je ne sais pas si vous le savez, mais les poissons ont un sexe génétique et ils ont un sexe phénotypique. C'est-à-dire qu'un poisson mâle peut se transformer en femelle et vice-versa. Il y a de l'intersexe chez le poisson. C'est même, il y a toujours un pourcentage d'intersexe, c'est naturel. Et ce qu'on va mesurer, c'est si l'intersexe augmente ou pas, en fait. Donc là, c'était une rivière qui avait été contaminée par des androgènes. Et en amont, il y avait des femelles et des mâles normaux. Et en aval, il y avait... un mélange en fait d'ovocytes primaires chez des mâles. Donc voilà, la diapo est ici. L'intersexe, voilà, dans une population, en amont de la contamination, vous avez ça comme mâle, ça comme femelle, et de l'intersexe est ici. Or là, l'intersexe, c'est tout ça. Vous voyez ? Il y a d'autres phénotypes qui peuvent alarmer. Donc dans la même rivière, on avait un retard de ponte, c'est-à-dire que la femelle grossissait, mais n'arrivait pas à expulser ses œufs, en fait. Donc des ventres énormes, voilà. Donc vous voyez, il y a des... Je ne dis pas que les perturbateurs endocriniens ne sont pas sans effet. Hein. Quand il y a des pollutions, il y a des effets sur les espèces aquatiques. Et chez l'homme, il y a des effets sur les travailleurs. Hein. Les gens qui sont exposés à des fortes doses, il y a eu des contaminations... connu suite à des expositions accidentelles. Quand je dis qu'il n'y a pas trop d'effets, c'est pour l'instant avéré, c'est sur la population générale et plus à travers la respiration, à travers la consommation d'eau ou d'aliments. Juste un dernier exemple pour vous montrer qu'on travaille également chez l'animal. Donc ça, c'est des larves de poissons zèbres. On peut travailler sur des larves de grenouilles aussi. C'est intéressant parce que c'est des petites larves qui vont pouvoir être mises dans ces plaques de culture. Et pour ne pas les avoir à les sacrifier, ce que l'on fait, c'est qu'on les rend lumineux ou fluorescents. Donc, vous ne voyez pas très bien parce qu'il n'y a pas cette couleur, mais vous voyez, il y a du vert ici. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos de grenouilles vertes ou de poissons verts. Donc c'est comme la luminescence, ces animaux deviennent verts quand ils sont exposés aux produits. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire toutes les observations sans sacrifier l'animal. On travaille sur des animaux comme ça, on travaille également sur des souris lumineuses, et au lieu de tuer l'animal pour aller voir s'il a une tumeur, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des modèles d'animaux où il y a des tumeurs luminescentes. Donc en fait, on travaille avec beaucoup moins d'animaux qu'avant, quand on les utilise. Et malheureusement, il faut en utiliser. Hein. Moi, j'ai toujours voulu travailler sur cellules pour ne pas avoir à travailler sur animal. Donc, vous voyez, je suis vraiment l'exemple des gens qui ne veulent pas utiliser des animaux. Mais par contre, je pense que c'est nécessaire. À un moment donné, il faut travailler sur l'animal.
Je crois que l'embryon de poisson zèbre n'est pas considéré comme animal.
Alors, c'est vrai. Mais est-ce que ça va durer? Pardon? Oui. Tant qu'il ne s'alimente pas. Tant qu'il vit sur ses propres réserves. Donc, je crois que c'est jusqu'à 4 jours. Voilà. Oui. Mais est-ce que c'est une réglementation qui va durer? Et en dehors de la réglementation, c'est l'aspect sacrifice d'animal que je n'aime pas trop, mais que j'estime. Voilà, que j'estime. Oui, oui.
Non, mais au-delà de ça, il y a la question de la nécessité ou pas de l'expérimentation animale. Et il y a des phases de test qui.
Alors.
L'expérimentation animale est
différente. Voilà. Voilà, les derniers stades. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors, oui, les larves, parce que, voilà, oui. Et alors, l'image que je vous montre, c'est en plus une larve de poisson zèbre qui a été humanisée pour le récepteur. Donc en plus, c'est un récepteur humain qui est dedans, vous voyez? Parce qu'on pourrait penser que les poissons sont très loin de l'homme, mais on peut arriver à les humaniser. Voilà, ben je crois que c'était ma dernière diapo.
Le bon est pas bon parce que. Oui, non.
On l'a rendu un peu plus humaine en mettant le récepteur humain à la place du récepteur de poisson. C'est tout, hein, c'est tout. C'est pas.
C'est pour ça que le mot humanité, quand on prononce, il y en a
qui sont
plus que. Il y a différentes catégories d'humanisation. Ouais, et quand tu dis humanisation comme ça à quelqu'un,
oui, le mot est peut-être pas juste. Hein.
Voilà.
On a mis un récepteur humain à la place d'un récepteur de poisson. Voilà, et donc j'ai fini. Donc ça, c'est les gens qui travaillent avec moi, donc l'équipe à gauche. Et je vous ai beaucoup montré des images de récepteurs. Donc c'est fait par un cristallographe, William Bourguet, avec Vanessa Delfos. Et c'est très joli parce qu'on est vraiment à l'échelle, si vous voulez, là on est à l'échelle du récepteur, donc cette petite protéine qui est dans la cellule. Et ensuite, donc on peut aller à l'échelle cellulaire, puis à l'échelle animale. Voilà, on balaye assez large. Malheureusement pour l'homme, on ne peut pas travailler dessus. J'exagère en disant ça parce que ce qui se fait beaucoup maintenant chez l'homme, c'est tout ce qui est étude épidémiologique. C'est-à-dire qu'on commence à suivre des cohortes maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années d'enfants qui sont nés à une période. On essaye de recenser l'alimentation des mères, l'endroit où ils ont vécu, avec carrément un positionnement GPS pour voir les expositions par rapport aux pesticides répandus. Et donc cette science-là est utilisée pour les perturbateurs endocriniens. Mais par contre, on aura les réponses dans un peu de temps. Quoi. Voilà. Je vous dis ça parce qu'on nous dit toujours qu'on ne va pas assez vite pour l'homme, hein, qu'on a tardé pour l'amiante, qu'on a tardé pour le tabac. Et voilà, mais il faut le temps qu'il y ait de l'effet. L'idée, c'est quand même, pour les perturbateurs endocriniens, on pense qu'ils ont un effet précoce et que l'effet se déclenche quand même au stade adulte. Hein.
Déjà, ce type d'études,
et par contre, je vous dis juste qu'elles commencent à se faire bien parce qu'elles se font maintenant. Avant, on faisait juste des enquêtes, c'est-à-dire on renseignait le vécu des gens. Maintenant, on prélève des échantillons d'urine, des échantillons de cordon qu'on congèle pour pouvoir faire de l'analyse chimique. Ce qu'il y a de bien sur la science, pour ce type de travail de la perturbation endocrine, c'est qu'il y a vraiment un travail qui est fait en collaboration avec différentes disciplines. Et on va vraiment de l'épidémiologie au chimiste qui va analyser dans le tissu qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Et c'est fait vraiment très bien. Je vais juste vous donner un exemple. Quand on mesure chez une femme les phtalates, on ne mesure pas les phtalates. On mesure des métabolites des phtalates. Alors pourquoi ? Parce que si vous mesurez des phtalates, vous pouvez mesurer les phtalates qui vous ont servi à faire la prise d'échantillon. C'est-à-dire la seringue qui vous a servi à prélever, vous allez libérer des phtalates. Donc si vous trouvez des phtalates, c'est peut-être les phtalates de la seringue. Si vous mesurez des métabolites de phtalates, c'est forcément c'est des phtalates qui sont passés par l'être humain et qui ont été changés, métabolisés. Il y a eu des erreurs de fait, hein, donc...
La méthode de l'épice, non ? De détecter les produits de la seringue.
Pourquoi ?
Parce que ça leur est arrivé bien des fois d'avoir des effets comme ça.
D'accord. Okay. Après, quand vous lisez dans les journaux plus de, 50 pesticides trouvés dans les pommes, choses comme ça, il faut déjà regarder quels pesticides c'est, quelles sont les concentrations, et après faire ce qu'on appelle la dose journalière admissible, voir si vraiment on dépasse la dose qui a un effet. Parce qu'à faible dose, il y a peu de chances que c'est un effet, en fait. Voilà. Il y a peu de chances qu'à des certaines doses, il faut une dose assez forte pour qu'il y ait un effet, en fait. Voilà. Donc je pense que si on en prend des toutes petites concentrations, si ça s'accumule, mais c'est pas dit que ça s'accumule. Bon, juste vous donner un exemple, il y a des recherches qui sont faites sur les gens qui maigrissent trop vite, parce qu'il y a des produits qui s'accumulent dans les graisses. Donc quand ils maigrissent très vite, il y a une circulation sanguine qui devient importante. Donc ce type d'étude est quand même faite. A priori, il ne faudrait pas maigrir trop vite parce que vous libérez trop vite des toxines dans votre sang et qu'il peut y avoir une inaction.
Vous avez parlé de chimie, médicamenteux.
Alors, l'éthylène estradiol est considéré comme un médicament.
Oui, là voilà. Mais en dehors de ça, c'est une hormone, donc directement dans le
sang. Voilà. Le problème du résidu... Enfin, je ne suis pas confortable avec ça parce que c'est des produits qui sont actifs et qui sont actifs qui peuvent être actifs à des faibles concentrations. L'éthylène estradiol, c'est vrai que c'est fait pour agir sur le récepteur. Donc, s'il y en a dans l'environnement et en fait on en rejette, et c'est essentiellement la femme qui les rejette, hein, la femme qui prend la pilule, c'est sûr qu'il y en a. Non, mais ça peut être n'importe quel médicament.
C'est pas dans votre champ radar.
Alors, on a des évidences un peu de ce qui médit l'effet dans l'environnement. Donc c'est vrai que les médicaments, a priori, à part près d'une usine qui les produit, on n'a pas une forte activité due à eux. Ils sont quand même moins actifs. Pour vous donner un exemple, sur une station urbaine, c'est surtout les estrogènes humains, estrone et estradiol, qui sont actifs. C'est eux qui sont le plus rejetés. Après, il y a un peu l'éthylène estradiol. Mais on n'a pas l'impression que les composés pharmaceutiques jouent un rôle très important dans les activités. Peut-être parce qu'ils sont moins présents que des pesticides, moins présents que des détergents. Voilà.
Il y a des citations notamment médiatiques sur la question des résidus médicamenteux.
L'expérience qu'on a, parce que nous, on travaille sur des échantillons environnementaux. Quand on travaille sur un échantillon environnemental et qu'on mesure l'activité, on travaille avec des collègues qui font de l'analyse chimique. La part des médicaments dans l'activité n'est jamais très importante. Voilà. Voilà. Par contre, oui, mais il faudrait presque boire l'eau qui sort d'une station près d'un. Après, nous, le travail qu'on fait beaucoup, c'est de travailler sur les stations d'épuration. Avant, on travaillait aussi bien sur l'entrée que sur la sortie. Maintenant, on travaille que sur l'entrée, parce que sur la sortie, il n'y a presque plus rien. Les stations d'épuration se sont quand même beaucoup améliorées. Les temps de séjour des eaux a beaucoup augmenté, et ils privilégient maintenant des dégradations par des bactéries anaérobiques qui dégradent beaucoup. L'activité. On travaille sur les... Mais je peux vous dire qu'il y a peu d'activités issues des stations d'épuration. Et juste, je finis, on travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est eau minérale, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles sur l'eau en bouteille, l'eau du robinet. Et là, vraiment, il y a très très peu d'activités. Il faut vraiment la concentrer. Si on la concentre, on finit par en trouver. Hein. Mais... Allez-y. Pourquoi ?
Les dents ne sont pas tout à fait les mêmes. général, il peut y avoir des regards clairs de l'eau des chimiques, on ne rentre pas dans l'eau du robinet. Je veux dire, l'eau du robinet, des fois, ça veut dire que l'eau minérale.
Oui. Oui, mais bon, nous on a travaillé sur des eaux, des viandes qui ont été maltraitées, traitées aux UV, traitées à la chaleur, et la libération du plastique a quand même été certainement faite parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'activité. Hein, mais voilà.
Ah, pardon.
Oui.